Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. À présent, eh bien, on reçoit bien quelqu'un qu'on avait reçu il y a presque jour pour jour 2 ans, Pierre-Jocelyn André, bonjour.
Bonjour.
Alors, on t'avait reçu il y a 2 ans pour parler bien du format audio Abadi-Jo, de la carte son Linux Audio, etc. Peut-être pour que nos auditeurs comprennent, parce que là, on rentre dans des domaines qui touchent à la recherche fondamentale, oserais-je dire. Traditionnellement, on représente un son par une forme d'onde, un truc comme ça qui monte et qui descend autour du zéro, comme ça.
Qui oscille, voilà.
Et c'est déjà au départ, c'est ce concept qui est battu en brèche par ces travaux que tu mènes depuis, j'imagine, pas mal d'années.
Ben, maintenant, ça va faire un peu plus de 3 ans, puisque j'avais commencé ça, c'était dans un mois de décembre, donc presque 3 ans et demi même. Donc la démarche au départ, c'était de pouvoir avoir un système audio qui soit léger. Donc j'ai commencé à coder pour dans cet objectif. Assez rapidement, j'ai eu quelques résultats qui étaient encourageants, mais il y avait quand même pas mal d'effets spéciaux qui se produisaient. Donc juste après notre émission qu'on a pu avoir ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a basculé sur du hard, parce qu'on s'est aperçu que les technologies actuelles ne correspondaient pas au fonctionnement du son. Donc on a travaillé sur la carte audio Linux. Et dernièrement, on a rebasculé sur le soft. La carte audio Linux, elle est quasiment prête à être produite. On a créé plusieurs prototypes, on a fait 3 grandes versions majeures. Et là, on a rebasculé sur du soft pour essayer d'avoir des applications, car entre-temps, il est sorti des technologies comme le Raspberry Pi, le RPI, qui sont vraiment bas coût et qui pourraient faire... nous permettent de produire, de créer des choses.
Alors, pour revenir à cette notion théorique, en fait, l'idée du format JO, c'est de modéliser le son plutôt que de le stocker, en quelque sorte.
C'est exact. L'idée principale, c'est faire de la modélisation. Alors, ce qu'on a fait, bon, je ne suis pas tout seul aussi, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a essayé de déterminer quelles étaient les lois de fonctionnement des sons. Donc ça a mis beaucoup de temps parce que à l'arrivée, les conclusions, les résultats sont vraiment très surprenants, très surprenants. Là, actuellement, dans l'état des choses, ce qu'on peut dire, c'est que je ne dis pas que d'autres personnes arrivent à le représenter d'une autre manière, mais je dis que nous, notre manière de le représenter, c'est qu'au départ, c'est un souffle et après, c'est une mise en forme de ce souffle qui va permettre de créer le son.
C'est-à-dire le souffle, ce serait la pression acoustique, ce qu'on appelle souvent la pression acoustique, c'est-à-dire ce qui se mesure en décibels,
oui,
etc.
Oui, c'est exactement ça. On serait en fait dans un souffle constant, la pression ambiante, et sur cette pression ambiante, nous pouvons donner 3 types de souffles. Un souffle très fort qui correspondrait à un souffle de batterie ou un claque sur la corde d'une guitare, le coup de marteau, quoi, le claque classique, qui donnerait la puissance, qui créerait la force permettant de créer le son. Et après, derrière, selon les mécaniques physiques qui vont intervenir, ça va reproduire exactement une force identique. Il faut que la forme soit identique pour augmenter la force et c'est ça qui va créer le son. Après, il y a de nombreuses lois qui vont intervenir, qui vont faire que la force, pour pouvoir y exister, il faut qu'elle ait un minimum, il faut qu'il n'y ait pas une force plus forte devant. On va pouvoir aussi mixer des sons. Disons qu'il y a plusieurs lois physiques qui vont intervenir, parce que c'est pas tout à fait des notions de fréquence. Notre conclusion, c'est qu'au départ, c'est le souffle initial, et la manière dont on travaille ce souffle initial qui va créer le son. Nous avons identifié 3 types de souffle initial. Le premier souffle initial, c'est nous qui donnons l'énergie, nous donnons un grand claque. C'est l'exemple avec la guitare, le marteau sur la corde du piano. C'est une imitation carrément du coup de tambour. Ou le tonnerre aussi reprend ça, mais d'une manière aléatoire, on va dire, pas cohérente, le tonnerre, mais c'est exactement ça. Mm-hmm. Il suffit de prendre quelques-uns de ces... 3 francs suffisent, puisqu'on ne parle pas en onde. Hein. La notion d'onde ne correspond pas à ce que nous pouvons observer. D'ailleurs, je pourrais revenir plus tard avec sur les détails sur la guitare et le son B. Nous travaillons sur des fronts. Les fronts montants se marient avec les fronts montants, les fronts descendants se marient avec les fronts descendants. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que le premier souffle, ça va être un souffle brutal, nous venant dans le milieu ambiant en donnant de l'énergie, beaucoup d'énergie, de manière à ce que le son puisse exister. Il y a une autre technique qui va être d'utiliser un catalyseur. Nous n'avons pas assez de puissance pour créer une force suffisante pour que le son existe dans ce front. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons donner un front de mi-hauteur, admettons, Donc, utiliser ce catalyseur pour commencer la réaction et derrière revenir avec la forme désirée en redonnant plusieurs fois de la puissance. Et en fin de compte, c'est à chaque fois qu'on aura un front de forme identique, il va venir s'associer au premier front pour créer une puissance suffisante, une force suffisante, je devrais dire plutôt, une force suffisante pour que le son puisse exister. Et après, il existe encore une troisième force, et celle-là elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à obtenir. C'est tout simplement une force, on se contente de donner la mise en forme. Mais si on prépare bien le terrain et qu'on met les portes avant, en donnant les mises en forme, on va pouvoir récupérer l'énergie se trouvant dans la pression déjà ambiante, et c'est la pression ambiante qui va se libérer et qui va donner la force au son que l'on a créé. Cette force est assez difficile à manipuler. D'ailleurs, c'est de cette force-là qui fait apparaître les effets Larsen, feedback, tout ça. C'est la pression ambiante qui donne son énergie. Donc, quand on manipule cette force, quand on ouvre cette porte de la pression ambiante donnant l'énergie au son, il faut la fermer. Voilà. Donc, on travaille sur ces 3 types de forces.
Alors, pour ceux à qui ça peut paraître un petit peu ésotérique, il y a quand même un exemple qui est super frappant par rapport justement à ce format audio. C'est la petite vidéo qu'on peut voir sur le site où un fichier WAVE, un fichier non compressé de 37 mégas, finit par être joué avec la même qualité, sans compression type MP3, Gvorbis, etc. Donc des compressions avec perte, peut être joué avec la même qualité en pesant 10 fois moins lourd, soit 3 mégas et quelques. Alors qu'on a l'impression que ce fichier audio, ça n'est qu'un fichier texte qui est interprété par la machine. Est-ce que je me trompe ?
C'est interprété, je ne sais pas si c'est le...
Non, modélisé. Donc.
Voilà, c'est ça.
En fait, c'est le modèle qui est donné, en fait.
Voilà, on dit à la machine, selon la on connaît, en tenant compte des lois des sons, on lui dit, donc, tu crées ta force... Et derrière, tu la mets en forme de telle manière ou de telle manière. Et ainsi, on retrouve tous les sons. En fin de compte, ce que je pense qu'on pourrait résumer ça, c'est que nous pouvons voir une information de deux manières. Soit on se met au bord d'un lac, on lance un caillou, et tous les millièmes de seconde, on regarde ce qui se passe et on écrit s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça.
C'est ce que fait l'audio habituellement.
Or, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du tout ça. On dit, voilà, il y a un caillou de telle force qui tombe à tel endroit. Donc, c'est sûr que donner une seule information, ça pèse qu'un octet. Et noter sur le bord du rivage toutes les informations qui arrivent, ça va peser très, très lourd.
Voilà, 44 100 fois par seconde pour le son, ce qui est le taux d'échantillonnage habituel en audio.
Sachant que si on veut avoir un format de notre qualité, ce n'est pas que 44 100, il faut le multiplier, parce qu'on travaille sur plusieurs octets, chaque information est sur plusieurs octets. Mmh. Alors qu'avec la modélisation, chaque information est sur un seul octet.
Et puis d'où ce découpage avec l'audio numérique traditionnel où il nous faut 44 100 photos par seconde pour voir le mouvement, si je compare avec l'image, là du coup il n'y a plus cette notion d'échantillonnage finalement.
Ça
redevient linéaire, d'où ce que tu disais il y a 2 ans, deux manières à retrouver l'excellence du son analogique.
Voilà, c'est exact. La démarche, là, c'était d'avoir de la qualité, d'essayer de reproduire le réel. Et pour reproduire le réel, il faut modéliser, il ne faut pas imiter. Donc, il faut concevoir, et la démarche était là.
Alors, autre débouché, en quelque sorte, de ces travaux de recherche, c'est la synthèse vocale.
Alors, voilà, là, actuellement, pour et par le biais de mon pen libre, la démarche est de lancer... une application sur des petits ordinateurs modernes qui valent quelques dizaines d'euros, vraiment
comme
pas
les
cher.
Raspberry Pi dont tu parlais
voilà,
tout à l'heure.
C'est exactement, je pensais justement à celui-là. Ajouter juste des petits haut-parleurs pas chers, ça vaut 5 ou 10 euros, un clavier, mettre une application avec mon format audio. J'ai créé un synthétiseur vocal qui pèse 30 kilo-octets. 30 kilo-octets tout réuni avec de nombreuses applications. On peut largement le réduire. 30 kilo-octets en mettant les sources à l'intérieur. Donc ça pèse beaucoup plus léger. Ce qui veut dire qu'actuellement, on peut créer des synthétiseurs vocaux qui pèsent moins de 30 kilo-octets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des appareils qui vont pouvoir lire des textes, qui vont pouvoir faire parler des gens qui ont perdu la voix suite à une maladie ou qui sont dans des hôpitaux qui ne peuvent pas s'exprimer, avec des appareils qui consomment très peu d'énergie, qui vont être ultra rapides, puisque l'application elle-même, je crois que c'est en kilo-octets qui tourne, donc c'est quelque chose qui va être quasiment instantané, ultra rapide, sans consommation d'énergie, et qui va permettre aux gens de s'exprimer. La démarche avec l'association, c'est de lancer un mouvement pour que l'association produise des Raspberry Pi avec le synthétiseur vocal dessus et de pouvoir les mettre à disposition dans les hôpitaux.
Alors ça, c'est, j'imagine que... Alors peut-être qu'il y a 3 ans, les... Oui ?
On a peut-être une illustration.
On a peut-être une illustration audio pour écouter. Alors peut-être la commenter avant de l'écouter.
Alors cette illustration, je vais revenir en une minute sur le son B. C'est, puisqu'on parlait du synthétiseur vocal, si nous regardons le son B, c'est tout simplement un M majuscule sous une forme de lettre anglaise. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fronts sont séparés. Donc ce qu'il faut faire, c'est sur le premier front montant, il faut donner toujours la même forme. Sur le second front, le front descendant, il faut faire attention qu'il ne redescende pas de la même manière, de manière à ne pas créer de force. En agissant comme ça, on va obtenir le son B. Le son B... d'une manière qui récupère l'énergie de la pression ambiante. Maintenant, si à ce son B, on rajoute un simple petit pont qui prend la moitié de la puissance acoustique possible, on va pouvoir réduire grandement les formes de M derrière. On obtiendra encore le son B. Mais le son B, on peut encore l'obtenir en partant directement d'une grande force seule, reproduisant le son M avec le bas du M qui descend en bas pour revenir. Mais là, c'est une force qui va demander beaucoup plus de puissance. Mais en écriture, si on fait attention, on peut écrire ce son B seulement avec 4 octets. Pour le fichier audio qui vient maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu illustrer comment on travaillait sur les fronts. Alors, quelque chose qui se fait couramment dans toutes les musiques que l'on rencontre, c'est que les gens se font une base, une base rythmique. Et après, tout au long de la chanson, c'est une base qui revient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le son B, mais au lieu que le front descendant, je le fais varier, je l'ai laissé toujours descendre de la même façon. Quand on fait ça, on recrée le son d'une guitare. Donc, c'est comme ça que j'ai créé un son de guitare. Ce que j'ai fait, c'est que sur ces fronts, j'ai mis 5 fois un front puissant. Derrière, j'ai mis les mises en forme en mettant des différentes durées. Ce qui fait que j'ai 5 notes de guitare qui se suivent. Ces 5 notes de guitare, d'ailleurs, à la fin du fichier, on va pouvoir les entendre. On devrait pouvoir les entendre, si j'ai donné le bon fichier. En répétant ces 5 notes de guitare, ça fait une base de rythme, un peu rhythm and blues. Et ça, si on regarde le poids du fichier qui permet de créer ça, on parle en dizaines d'octets. C'est peut-être 10 ou 15 octets. Et on peut produire des sons sans limite, en giga-octets de la technologie actuelle.
Eh bien, on va écouter cet exemple.
Et, oui. Ah, je trouve que... Et ce que j'ai fait, j'ai fait varier les premières notes. J'ai fait varier simplement une suite de fronts d'une valeur de durée de 170. Et j'ai fait varier 150, 130. C'est comme ça que vous allez entendre la différence.
Eh oui, effectivement, ça fait la rythmique tadam 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 tadam
à la fin du fichier.
Tout à fait.
Et très très léger à écrire donc.
Alors une question avant qu'on se quitte, car le tourne. J'imagine qu'il y a 3 ans de ça, quand tu parlais de ton domaine de travail, à des collègues ou à des gens qui sont dans l'audio, etc. Les gens devaient te regarder un petit peu bizarre quand même en disant mais comment il veut faire du son avec aussi peu de données, etc. Puisque on est en pleine époque où les gens il faut réduire la taille des fichiers, etc. Est-ce que le regard de tes pairs ou des gens autour de toi était un petit peu suspicieux au départ?
Certainement. Disons que ce qui me gêne le plus...
Parce que c'est assez révolutionnaire, c'est ça que je veux dire par là.
J'ai entendu... Non, ce qui me gêne le plus, c'est pourquoi tu te donnes de la peine, puisqu'il y a des grands groupes qui arrive à faire des synthétiseurs vocaux, qui arrive à sortir la musique. Les machines sont de plus en plus puissantes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne rajouter sa technique tout seul dans un coin comme un savant fou. Et ça, c'est les gens les plus courtois qui me parlent comme ça.
D'accord.
Mais déjà, le terme est lancé, c'est fou. Mais et moi, je trouve ça choquant. Parce que, quelque part... c'est pas une raison, parce que je peux imiter quelque chose que je ne dois pas chercher à la modéliser. Parce que la modélisation va nous donner le pouvoir de créer, le pouvoir de gérer son énergie, le pouvoir d'évoluer. Tandis que donner de gros moyens sans se soucier si la personne a les moyens de se procurer ces gros moyens, entre guillemets, c'est être égoïste, ne pas faire attention aux autres. Et là, du tout, n'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est d'être curieux et d'aller voir comment c'est.
Oui, puis dans la science ou dans l'ingénierie, en général, quand on trouve une bonne idée, en général, elle est simple, elle est puissante, elle est efficace. Et là, ce que tu produis toi comme travail, ça va dans ce sens-là. Alors qu'à l'inverse, on a des choses très compliquées. Hein, compliqué, c'est toujours négatif par rapport à complexe. Très lourdes, très chères, qui consomment beaucoup d'énergie. Et en ce moment, que ce soit au niveau des data centers, au niveau de l'énergie, etc., on est tous à la recherche de solutions qui soient plus propre, plus simple, plus pur, plus efficace, plus logique, moins dispendieuse, plus partageable, etc. Donc j'imagine que là, il doit y avoir quand même des gens qui commencent à s'intéresser de plus près à ton travail aujourd'hui, non ? Maintenant que les prototypes ont été faits, etc., non ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le libre est un système ouvert. Donc, dans un système ouvert, c'est un système qui est curieux, qui va chercher des solutions, qui va évoluer, qui va créer des richesses. Si on fait attention, les autres personnes qu'on rencontre sont des personnes qui sont assujetties à un ordre établi, dans lequel ils ont trouvé leur niche, leur créneau, comme ils disent. Et il ne faut pas que ça change. Il ne faut pas que ça change parce que est-ce qu'on va pouvoir vendre de la musique aussi cher si ça nous coûte beaucoup moins cher à produire? Il faut un argument que la musique soit mystique, qu'on ne puisse pas créer, que ce soit réservé à certaines personnes et à utiliser certains moyens. Donc, c'est élitiste. Parce que vous possédez ça, vous êtes supérieur. Si tout le monde possède ça, on ne pourra plus leur vendre très cher en disant « vous êtes supérieur parce que vous avez ça ».
Sauf qu'on sait bien que ce genre de modèle ne résiste pas au long terme. Hein. On le voit bien, il y a 30 ans, pour enregistrer un album, il fallait avoir des appareils à 200 000 euros, des consoles hors de prix, il y avait beaucoup de gros studios, etc. Grâce à l'informatique personnelle aujourd'hui, tout le monde peut enregistrer son album à la maison avec des logiciels libres et un ordinateur à 500 euros. Donc, quoi qu'il en soit, la marge du temps fait que forcément, au bout d'un moment, le format Badigeau va casser la baraque.
Le terme, c'est le libre.
le libre va casser la baraque. On est obligé d'enchaîner. Pierre, merci beaucoup. On se tiendra au courant. J'encourage les gens à aller voir sur letime.net/légère. On retrouve un petit peu toutes les informations. Je préviens que sur la petite vidéo de présentation, le son, une fois qu'il est lu, il est super fort. Alors, je conseille aux gens de baisser d'écouter très. Moi, j'ai fait un bond de 2 mètres cette nuit quand j'ai écouté.
Tu seras présent aux rencontres à Bruxelles, peut-être ?
Pardon ?
Tu seras présent à Bruxelles en juillet, là,
au RMLL ?
Ben, au début, j'ai prévu d'y être et je m'étais inscrit, mais n'ayant pas de réponse, je ne sais pas encore.
Ah, il faut.
Ils sont un peu à la bourre.
Ils sont dedans.
C'est rock'n'roll.
S'ils t'ont pas dit que c'était refusé, c'est que tu as des chances peut-être d'y être.
Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror States.